OK, donc on est dans Matthieu 26. Comme je disais, dans le message, on va considérer les 16 premiers versets, mais là, pour l'instant, on va lire simplement les versets 1 à 5. Matthieu 26, « Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Je veux prendre le temps de mettre la table, si vous voulez, par rapport à quelque chose qu'on n'a jamais... J'ai glissé un mot un peu ce matin. On n'a jamais fait ça en tant qu'Église, mais Dieu, dans sa souveraine providence, permet qu'on soit rendu dans le texte de la Passion alors qu'on s'approche de la Passion. Fait que dans le fond, ça, en étudiant Matthieu 26, 27, ben ça va nous préparer pour, tu sais, parce que la Pâque, hein, c'est quoi? C'est ça, hein, c'est Christ crucifié puis enseveli, ressuscité. Fait que le Seigneur fait ça pour que, je crois, on considère ensemble ce qu'on appelle, ok, je vais prendre l'expression « la passion de Christ ». Ok, sa passion, ça veut dire justement là, le fait qu'il a été livré, crucifié, enseveli et ressuscité. Et donc, cette passion qu'on considère ensemble et selon la direction de Dieu et son timing parfait devrait nous amener à Pâques, qui savez-vous c'est quand cette année? L'année passée c'était tôt, cette année c'est tard. 17 avril. Donc, on va avoir le temps. Puis, ça devrait même être parsemé, là, parce qu'on va avoir des repas du Seigneur. Avec le repas du Seigneur, à cause du thème pour le mois d'avril cette année, ça va être Christ notre Pâque. Puis, on va considérer ça ensemble. Donc, on a des choses dans le collimateur. Dieu voulant, on va considérer ça ensemble. Donc, ceci dit, mon intention. C'est pas que ça soit un exercice là, académique, on va regarder ça, mais que ça soit christocentrique, que Dieu nous ouvre les yeux. C'est ça qui est merveilleux avec les évangiles, on voit Christ dans son humanité, puis il y a toutes sortes de vérités tellement riches à voir sur Christ. Et donc j'aimerais qu'on prenne le temps de s'imbiber, de s'imprégner des vérités, des faits, des scènes là, qui sont relatées dans Matthieu par rapport à la passion de notre Seigneur, afin qu'elles saisissent et transforment nos cœurs à chacun de par la puissance que la parole a de nous transformer. Et donc, dans ce message, ce premier message d'introduction, j'aimerais simplement qu'on prenne le temps de saisir l'atmosphère spirituelle de cette passion, de qu'est-ce qui arrive. On va regarder simplement, je vous donne les 3 points avant d'y aller un par un, mais 3 éléments là, d'introduction par rapport à la passion de Christ. D'abord, dans les versets 1 à 5 qu'on a lus, on va voir la déclaration de Jésus par rapport à l'imminence de sa passion. Ensuite, on a dans les versets 6 à 13 les diverses réactions des disciples par rapport à l'offense de sa passion, parce qu'ils étaient tous offensés. Vous allez voir pourquoi, là, mais... Et finalement, la réaction coupable de Judas Iscariote par rapport à l'opportunité de sa passion. Donc, dans les versets 1 à 5 qu'on a lu, on a la déclaration de Jésus par rapport à l'imminence de sa passion. On veut juste relire les versets 1 et 2. Ça dit, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Donc, Jésus a une déclaration par rapport à l'imminence. 2 jours, c'est vite 2 jours. Surtout avec l'intensité avec laquelle les choses se passaient, rendues là dans le ministère terrestre de Christ. Donc, il faut comprendre, verset 1, là, après avoir parlé du futur de façon générale, là, rappelez-vous qu'on a dit chapitre 24 et 25, il y avait des éléments du fait que Jésus annonce l'avenir avec autorité. Il parle des choses qui vont arriver comme étant celui qui a autorité de savoir tout ce qui se passe comme le Dieu omniscient. Il les annonce à l'avance. Il les prédit. OK? Mais là, il est vraiment plus spécifique. Là, il n'est plus dans le général, il dit dans 2 jours. Dans 2 jours, je vais être livré. Comprenez-vous comment avant, il avait parlé de choses beaucoup plus lointaines. Là, c'est vraiment pouf! Là, ça frappe vraiment proche. Et cette déclaration de Jésus, ça dit d'abord, il dit au verset 2 qu'il va être livré. Ça, c'est l'idée d'être trahi, hein? Ça l'inclut, on va voir ça dans, avec Judas Iscariote. Mais aussi crucifié, ça c'est la condamnation, puis c'est pas n'importe quelle condamnation, c'est la pire, celle des criminels qui voulaient être mis en spectacle public pour qu'ils soient humiliés, la crucifixion. Et donc, j'aimerais qu'on prenne le temps ici de saisir cet instant dans le récit de l'évangile de Matthieu et dans le cœur des disciples. Ils viennent d'entendre Jésus parler avec autorité sur l'avenir dans Matthieu 24 spécialement, mais aussi après ça donner des avertissements solennels par rapport à ça dans Matthieu 25. Et là, ce même Jésus qui, du haut de cette autorité majestueuse qu'il a manifestée dans Matthieu 24 et 25, leur annonce, pour eux autres, je dirais, l'impossible, presque le ridicule. Le Fils du Dieu vivant s'en va mourir à Jérusalem dans les mains des impies, de la crucifixion romaine qui est des païens. Le Messie, le roi d'Israël qui meurt dans les... Comprenez-vous? Il y a vraiment ici... il y a quelque chose de choquant. Et ça, là-dessus, le récit de Luc 22 nous amène une lumière différente là-dessus. Je vous le lis. Ça dit, le Seigneur dit à Simon, dans le même contexte historique là, de la Passion, « Simon, Simon ». Quand le Seigneur répète le nom d'habitude, parce que, écoute bien, il y a quelque chose d'important qui s'en vient. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Vous savez, c'est quoi cribler? Cribler, c'est avec une méthode de tirer les grains comme ça dans les airs, où est-ce que le grain qui est lourd retombait à la même place? Mais l'écorce qui est légère était, à cause qu'elle était battue comme ça, elle était emportée par le vent, même si c'était juste une brise, puis ça faisait... Donc il y avait le tas de grains qui était épuré de plus en plus, puis à côté tombait l'écorce. Cribler, c'est séparer le bon grain de son écaille, tu sais, de son... je sais pas c'est quoi le mot technique, là, husk, là, l'écorce, là, de son enveloppe. Et donc, Satan a demandé ça. Rappelez-vous, là, Satan ne peut pas faire ce qu'il voulait. Il a fallu qu'il demande. Mais ce qui est un peu épeurant, c'est que ça a été accordé. Parce que Dieu, il transforme le mal en bien. Dieu a permis que Satan fasse cette œuvre de criblage. Et ça, c'est quoi? C'est que là, Jésus avait dit, « Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est une grande vérité qui était dans leur cœur. Mais là, il y avait cette autre vérité-là qui semblait absolument impossible. Comment cet homme-là, qui est le Dieu fait chair, va mourir dans les mains des impies. Et donc, Satan voulait garder ça séparé. Comment ça peut marcher avec ça? Ça marche pas. Et là, donc, qu'est-ce que ça fait? Ça sème le doute. Et j'aimerais souligner ici que Dieu est au contrôle de tout ça. Parce que dans le cœur de tous à chacun ici, là, on s'entend, là, puis pensons-nous pas nous bons parce qu'on est exactement pareil. Quand on a deux vérités de même qui semblent se contredire, ça ne compute pas, comme on dit en bon québécois. C'est comme, merde, ça marche pas, c'est pas plus être de même. Et Satan veut forcer cette séparation. Satan veut augmenter le doute en disant, ben non, ça marche pas. T'as bien raison de douter parce que ça n'a pas de bon sens. Il veut magnifier cette contradiction apparente. Mais le Seigneur a prié lui-même pour que la foi ne défaille point. C'est quoi cette foi qui défaille point? C'est de se concentrer sur ce qu'on sait de notre Dieu. Il est bel et bien le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça ne change pas, même s'il meurt de la façon qu'il vient d'annoncer qu'il allait mourir. Ça ne changeait pas ça. Et il voulait Jésus, la foi qu'il devait avoir, c'est qu'en voyant... ce qu'il voyait impossible, de se rappeler que Jésus était encore le même que dit qu'il était. La foi devait rester sur ce qu'il savait certain sur Dieu. OK? Même s'il n'était pas capable encore de tout réconcilier. Vous savez qu'on a vécu ça mercredi. Mercredi, on a vécu tout qu'un moment intense de combat spirituel. Et vers 2h du matin, après avoir combattu, puis on a vu vraiment Dieu à l'œuvre et tout ça, mais on n'a pas vu une pleine délivrance. Ceux qui étaient là, vous savez, on voyait que c'était pas, on n'était pas rendu là. Puis j'ai senti dans mon cœur, comme tu priais ce matin, à un moment donné, tu as senti Je me rappelle plus le mot que tu avais pris, mais pendant un instant, comme t'es tombé en déférence un instant, puis le Seigneur t'a fortifié, ben j'ai senti ça dans mon cœur, puis je l'ai senti que probablement que c'était quelque chose qui était dans la pensée des gens, que voyons, on a combattu jusqu'à 2h du matin, puis au nom de Jésus qui a toute autorité sur les esprits, puis on voit pas de résultat. On n'a pas la délivrance. Puis le Seigneur m'a ramené sur ce passage-là de Luc 22, puis je l'ai partagé avec, en tout cas, on parlait de différentes personnes ensemble. Je sais que Maxime, tu étais à côté de moi. Ma femme aussi, je pense, m'a écouté ça. Mais l'idée, c'est garder. Concentrons-nous sur le fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé là, ce soir, là. Jésus est encore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est toujours celui au nom duquel tout genou fléchit. Ça n'a pas changé. Nous, on ne comprend pas comment ça, que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la délivrance tout de suite. Satan aurait voulu séparer ça, dire ah, ça ne marche pas pour qu'on soit chanceux. Mais si on se concentre sur qui Dieu est, c'est du coup, Dieu peut délivrer quand il veut, comment il veut, puis à la façon qu'il veut. Voyez-vous comment c'est vraiment vital ce qu'on parle là? Donc, ça nous amène les choses en perspective avec ce qui arrivait. Jésus, là, ce qu'il venait de dire, c'était pas comme juste une phrase de main. Bon, on s'en va à Jérusalem. Non, non, tout le monde était complètement là, abasourdi. Là. C'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre l'atmosphère. Là. Tout le monde devait shaker, là, littéralement. Il devait avoir l'estomac tout à l'envers. Puis là, en plus, ça sent la menace. Là, là on parle, on a vu les sacrificateurs. Puis d'ailleurs, c'est ça, ça dit qu'ils se réunirent. Tu sais, on parle des autorités là, d'Israël. Ils se réunissent pour délibérer des moyens d'arrêter Jésus pour le faire mourir. Je veux dire, ils ont des plans meurtriers qu'ils sont en train d'exécuter. C'est pas rien, là. C'est un peu comme si à Ottawa. Non seulement avant d'envoyer la police, il m'a dit on va s'arranger pour les tuer, toute cette gang-là. Je pense que les gens qui étaient là, ils auraient été nerveux, n'est-ce pas? Ben là, on va peut-être tuer leur chef, là. Parce qu'il ne faut pas exagérer ici, c'est pas tout le monde qui est mort. Mais probablement qu'ils disent si tu es notre chef, probablement qu'on va passer après. Tu sais, il a dit avoir toutes sortes de choses qui lui passaient dans l'esprit. Mais, ces versets-là nous rappellent que on peut remporter la victoire sur le doute, Satan qui veut nous cribler. Mais ça ne veut pas dire que la guerre est finie, puis que l'opposition spirituelle et physique est terminé. Amen. Comme en ce moment, OK, il y a une délivrance, on a vu des choses, tout ça, mais tout n'est pas terminé, la guerre n'est pas finie. Hein? Dans la situation avec laquelle j'ai référé tantôt, pour mercredi, puis la suite des choses. Mais remarquez ici que c'est spécial, parce que ça nous dit que ces gens-là, les dirigeants d'Israël, ont délibéré, ils délibérèrent. Et remarquez que ça dit dans Proverbes 16:9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Faut jamais oublier que notre Dieu est souverain, au-dessus, au contrôle, et que son plan est au-dessus, au-delà des délibérations humaines. Eux autres, ils délibéraient quelque chose, mais c'est le dessein de Dieu qui est en train de s'exécuter. Eux autres méditaient du mal, mais Dieu allait le transformer en bien. Et l'ultime démonstration de ça, c'est la croix. C'est pour ça que quand on voit Joseph avec ses frères, il faut voir la croix là-dedans. Oui, OK, il y avait un plan immédiat pour ça, mais ça nous pointe au principe de la croix. Notre Dieu qui change de mal en bien. L'ultime démonstration de ça, c'est tout le mal de tout le monde que Dieu a transformé dans le plus grand bien qui a jamais été, la croix du calvaire. Amen. Et le triomphe du tombeau vide. Puis c'est quand même spécial qu'au verset 5, ça dit « Il ne voulait pas créer de tumulte. » En réalité, Jésus a créé un tumulte qui était tellement grand qu'il dure encore aujourd'hui. Les hommes n'ont pas créé de tumulte. Mon ami, tu veux parler de tumulte? Les événements qu'on est en train de considérer là ont changé le monde. À l'époque puis encore aujourd'hui, mais eux autres, ils ne voulaient pas créer de tumulte. La petitesse de l'homme, hein? La grandeur de Dieu. Et je pense que tumulte, c'est dans le sens... Tu sais, puis nous, on doit créer le tumulte. Tu sais, ça dit dans Jacques, je vais vous lire, je l'ai écrit. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Qu'on crée ce genre de tumulte-là autour de nous autres en prêchant l'Évangile, en proclamant Christ et qui il est. Les proclamations des faits de l'Évangile, un autre prédicateur, je pense que c'est le même, c'est Camille qui me relatait ça, je ne l'ai pas écouté personnellement, mais il dit, nous, là, notre rôle, là, on prêche les faits de l'Évangile. C'est pas une suggestion, là. Christ est Dieu fait homme qui est venu pour mourir à notre place, nous coupables. Il y a lui, mort et lui juste et mort pour nous injustes. Et il est la victime expiatoire. Et il a triomphé de la mort en ressuscitant des morts. Puis maintenant, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il est vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Now deal with it. Littéralement, c'est ça qu'il disait. Now deal with it. Parce que nous autres, l'idée, là, on proclame les faits de l'Évangile, puis des gens doivent répondre à ça. C'est pas nous qui convainquons, puis tu sais, on doit proclamer haut et fort, avec conviction, les faits de l'Évangile, puis après ça, deal with it, mon ami. Comprenez-vous quand je dis deal with it? Tout le monde me regarde un peu bizarre. C'est comme, arrange-toi avec ça. Mais non, mais c'est vrai, parce que, je veux dire, on est des héros. Le roi nous a sommés de proclamer les faits. T'sais, on n'a rien à inventer. Puis là, les gens, c'est eux qu'il faut qu'ils s'organisent avec ça. Je veux dire, maintenant que tu es face à ce roi, c'est quoi tu fais? OK? Bon, ça m'amène au deuxième point. La réaction, les réactions diverses des disciples concernant l'offense de la passion. Dans les versets 6 à 13, regardez bien. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme, et là on apprend là, en faisant des références parallèles que c'est Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à votre égard, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Pour ceux qui se demandent, quand on prêche l'Évangile, il faut raconter l'histoire de Marie qui a mis. Non, c'est que c'est dans les Écritures. C'est que ça fait partie de la bonne nouvelle de ce qui a été. Parce qu'au début, quand j'ai été sauvé, j'ai dit, ça veut dire quand je prêche l'Évangile, il faut que je raconte l'histoire avec le vase d'albâtre. Non, pas besoin. Je veux dire, ça fait partie, c'est la passion, comprenez-vous. Bon, c'était juste moi qui est ridicule d'avoir pensé ça, mais je l'ai pensé. Les diverses réactions des disciples ici par rapport à l'offense de la passion, parce qu'il faut comprendre, là, tout le monde est offensé ici. Là. On peut les mettre dans deux catégories. D'abord, Marie. Oh, cette chère Marie. Elle est reconnue, n'est-ce pas, pour son adoration envers Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Et ici, c'est l'apogée. Ici, c'est le sommet de sa vie, ses actes d'adoration. Il y en a un autre qu'on connaît aussi, vous connaissez dans Luc 10, quand Marie, elle était assise au pied du Seigneur pendant que sa sœur accourait partout, mais Jésus, au verset 42, dit « Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Mais là ici, avec le vase d'albâtre sur la tête de Christ, c'est l'acte le plus christocentrique et puissant qu'elle ait fait, performé. D'où le verdict de Jésus, ça va être raconté. Pourquoi? Parce que c'était centré sur l'œuvre de Christ. Donc c'est dans ce sens-là quand il dit au verset 13 que en mémoire d'elle, quand la parole va être prêchée, c'est ça ramène à ce qu'elle a saisi sur l'œuvre rédemptrice de Christ. Et au verset 12, Jésus il spécifie, lui qui connaît toutes choses. Pourquoi qu'elle faisait ça? Elle le faisait pour sa sépulture. Autrement dit, son adoration était la réponse de la foi à ce qu'elle pouvait anticiper de l'œuvre rédemptrice de la croix qui était devant. Est-ce que ça veut dire que Marie comprenait tout ce qui était, ce concernait la croix qui était devant eux? Non. En fait, probablement moins que nous, on peut comprendre en ce moment. Mais son temps d'adoration au pied du Seigneur l'a certainement préparé puis éclairé par rapport à la mission du Messie qui est partout dans l'Ancien Testament. Pensez-y, là. Lorsqu'elle s'est assise comme ça, au pied de Jésus, ça se peut-tu qu'elle ait parlé d'Ésaïe 53? Ça se peut-tu qu'elle ait renseigné sur le psaume 22? Ça se peut-tu qu'elle ait médité sur ces choses? Puis lorsque Jésus est arrivé avec la nouvelle qui scandalisait tout le monde, pour elle, ça l'a fait des liens avec ce qu'elle avait pris le temps d'apprendre au pied de son maître. OK, sans aucun doute, là, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix, puis tu sais, je veux dire, c'est le lot de tout le monde, on ne peut pas tout comprendre, les voix de Dieu, puis je ne suis pas en train de dire que Marie comprenait tout. Mais son adoration lui a permis, je crois, de saisir la pensée de Christ comme les autres ne l'avaient pas saisie encore. Son adoration au pied de Jésus. Et ça, c'était suffisant pour produire un authentique et puissant acte d'adoration, même si elle n'avait pas tout à fait tout exactement mis ensemble. Elle en comprenait assez pour répondre même en l'adorant. Quel acte puissant d'adoration. C'était coûteux, mais c'était aussi très significatif. C'était, ça, on voit qu'elle avait du insight, une compréhension de la nature de Christ et de son œuvre en faisant ce geste. C'est tout à son honneur. Puis on fait un parallèle avec nous autres. Bon, première venue, puis tout ça, on s'entend qu'ils ont comme échappé des bouts, ils ne comprenaient pas tout, puis tout ça, les disciples. Il n'y avait pas toutes les réponses par rapport à la première venue de Jésus, on s'entend là. OK? Puis on peut dire, oh, ouais, il y avait Ésaïe 53, puis il y avait, oui, OK, mais tu sais, je veux dire, tout mettre ça ensemble, on lui donne une chance. Pourquoi? Parce que nous autres, deuxième venue, on n'a peut-être pas aussi toutes les barres ses bontés, puis les points sur les bons i. Mais si on a une adoration du type, comme Marie, de s'asseoir au pied du Seigneur pour que lui nous enseigne, ça va produire le genre d'adoration comme ici, même si on n'a pas toutes les réponses, puis on ne comprend pas tout. Amen. Maintenant, ça, c'était la première catégorie. Catégorie Marie. Elle est toute seule dans sa catégorie. L'autre, les disciples. Versets 9, 8 et 9. OK. Ils sont indignés. On apprend d'après Jean 12 que Judas était le porte-parole de cette contestation puis que ses motifs étaient mauvais. OK? Et le reste des disciples n'a pas eu le discernement spirituel pour prendre position puis voir au-delà de ce qu'ils voyaient cette femme-là faire. Ils ne voyaient pas au-delà avec les yeux de la foi. Bon, dans le cas de Judas, Jean nous révèle les motifs de son cœur. Il était voleur, puis c'est pas parce qu'il se mettait en peine des pauvres. Mais pour le reste des disciples, la réaction d'indignation démontre qu'il n'était pas du tout sur la même longueur d'onde spirituelle que Marie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre ça? Par rapport à un chrétien qui, en toute simplicité de cœur, fait quelque chose qui vous indigne seulement pour que vous vous rendiez compte plus tard que c'est vous qui êtes dans le tort. Exemple, quelqu'un qui a une générosité du type là, 2 Corinthiens 8, 1 à 5, là, où est-ce que les Macédoniens qui étaient tellement pauvres, mais du sein de leur grande pauvreté, ils ont donné une libéralité riche, là, de donner de façon extravagante. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a une audace, qui a l'air d'une folie de comment elle partage sa foi. Avec une assurance, une simplicité de cœur versus nous, notre timidité, alors qu'on n'a pas un esprit de timidité. N'est-ce pas que souvent, c'est là qu'on se rend compte, ouais, je pense que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose. C'est un peu ça la situation ici. Ouais, elle avait l'air de vraiment être tellement extravagante, tout ça, mais non, c'est eux qui ne comprenaient pas quelque chose. Et la réponse de Jésus ici, dans notre texte, à cette indignation des disciples, est très éclairante. D'abord, il dit, pourquoi lui faites-vous de la peine? Jésus s'était aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Notre indignation produit la peine, attriste les personnes qui marchent par la foi, qui sont dans une marche avec Dieu par l'Esprit, mais surtout ça l'attriste le Saint-Esprit. Quand avec nos gros raisonnements et nos grosses affaires, on raisonne tout, on produit une tristesse chez ceux qui marchent avec Dieu, mais aussi chez Dieu qui fait marcher ceux qui marchent avec lui. Mais Jésus dit plus que ça, il dit, pourquoi faites-vous de la peine? Puis il dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Cet acte d'adoration exalte la personne et l'œuvre de Christ d'une façon majestueuse. Puis si ça nous indigne, c'est nous qui avons un problème. Dans le fond, elle les accusait Eux autres étaient là, ils s'indignaient puis ils pointaient du doigt, mais elle, de par son acte, sans rien dire, a dévoilé la dureté de leur cœur. Elle a fait une bonne action. Elle a rien fait de mauvais, au contraire. Elle faisait quelque chose de très bon. Puis elle a dit, à mon égard. C'est pour ça, mes amis, que on doit aucunement se laisser troubler par certains qui pourraient nous dire extravagants ou rebelles du fait qu'on fait l'Église comme on fait l'Église ici. Pourquoi? Parce qu'on fait simplement faire une bonne action à l'égard de notre Dieu. On veut juste adorer Dieu comme Dieu est supposé d'adorer. Tu sais, l'accusateur des frères voudrait nous traiter de rebelles et tout ça. Mais si on regarde à Dieu, c'est plutôt, c'est bien bon et fidèle serviteur. Je veux dire, on fait juste vouloir honorer notre Dieu. On veut être christocentrique. On fait ça, pas pour nous, mais à l'égard de Dieu, pour lui. Puis pour l'avancement de sa cause. Puis je faisais remarquer tantôt en parlant avec des gens, tout le monde que j'ai connu, qui ont pris ce genre de position, Dieu a tellement béni de tellement de façons. Puis là, je ne parle pas là, nécessairement de bénédiction matérielle, mais de... Puis aussi avec des épreuves, là. Tu sais, comme nous autres, on peut dire qu'on a été bénis par des bénédictions et des épreuves, mais je veux dire, la main d'approbation est sur ceux qui ont pris ce type de position. Et finalement, Jésus, face à leur indignation, il y a une autre chose qui rajoute. Il dit, vous allez tout le temps voir les pauvres, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Autrement dit, je pense qu'ils sont... Puis là, vous ne m'avez pas toujours. On connaît que plus loin, là, ben, dans Jean, il parle du consolateur qui va être envoyé, puis c'est un autre consolateur. Le mot, c'est « Allah », c'est-à-dire un autre de la même nature. C'est l'esprit de Jésus. Donc, tu sais, vous ne m'aurez pas toujours sous la forme corporelle devant eux, mais on sait que l'esprit de Jésus est venu. Mais je pense qu'il faut comprendre ici, ils sont tombés dans le piège avec leur indignation de manquer un rendez-vous divin. Un rendez-vous avec sa communion. Et oui, la communion de ses souffrances, parce que c'était souffrance qu'il vivait. Et comme disciples ici, Dieu nous apprend à avoir une communion spéciale, intime, réelle, avec ce que lui est en train de faire en ce moment. On a un rendez-vous divin. Hier, dans un temps de prière, il y a un frère qui a dit, « Seigneur, je pense que tu as un appel spécial sur cette église. » C'est quelqu'un qui ne fait pas très longtemps qu'il vient ici. Puis je pense qu'il y avait une vérité là-dedans. Je pense que Dieu veut faire de quoi, tu sais. C'est ça qu'on disait. On a dit, OK, là, on va faire un comité, là, puis on va dire, on va s'arranger pour que la police y vienne ici. Puis là, après ça, on va... Tu sais, on n'a rien, on sait pas assez... On n'a rien décidé de ça, là. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui dirige les choses. Hein. Nous, on aurait voulu rester sous le radar, mais Dieu, bouf, il nous a fait pas mal sortir du radar. Puis là, on n'est plus sous le radar, on est... Mais Dieu a fait tellement des bonnes choses à travers ça. Je veux dire, c'est l'œuvre de Dieu. C'est un rendez-vous divin. Puis un rendez-vous divin, ça ne veut pas dire que ça va tout bien. Puis un rendez-vous divin, ça peut être un rendez-vous à la communion de ses souffrances. Et la passion nous montre certainement que c'était ça. Mais il n'était plus pareil. Et on parlait tantôt de ne pas faire de tumulte. Ces gens-là qui étaient tout timides, ils en ont fait. Ils ont été des instruments de tumulte dans les mains de Dieu. Parce que, je veux dire, ça nous dit que tout Jérusalem était rempli de renseignements dans le livre des Actes. Parce que il voulait pas se taire, il voulait partager les merveilles du Seigneur qu'il avait connues et expérimentées. Et donc, c'est ça encore qui nous rappelle toujours et encore la grandeur, la merveilleuse mission rédemptrice de notre Dieu qui, dans sa grande bonté, dans sa patience, permet ce qui nous arrive pour nous appeler à lui. Nous appelez à lui. Vous ne m'aurez pas toujours. Vous avez toujours avoir des pauvres, vous ne m'aurez pas toujours. Vous savez, on peut manquer des occasions de rencontrer Dieu d'une façon unique, comme personne, puis comme Église. Ça m'amène au troisième et dernier point. Puis en passant, je pense que ce que Dieu a commencé, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Notre Dieu est tellement grand, il peut faire tellement au-delà. C'est-à-dire à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, même pensons. Fait qu'on a vu... D'abord, Jésus, sa déclaration concernant l'imminence de sa passion, les diverses réactions concernant l'offense de la passion et maintenant la réaction coupable de Judas face à l'opportunité de la passion. Versets 14 à 16. Alors, l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Vous voyez, il voyait une opportunité là. Et je vous le livrerai. Et lui paya 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Depuis ce moment, il cherchait une occasion, une opportunité favorable pour livrer Jésus. Bien sûr, on parle ici du monde non régénéré, là, ok? Judas et ceux avec qui il est allé faire affaire. On parle pas d'enfants de Dieu ici. Mais la leçon que j'aimerais en tirer est simplement celle-ci. Là où le monde voit une opportunité de faire du mal, là où Judas voyait une occasion de livrer Jésus pour 30 pièces d'argent, oui, ce monde s'amasse un trésor de colère. Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Mais c'est surtout quelque chose qui est utilisé malgré Judas pour accomplir le dessein de Dieu. Judas cherchait une occasion de livrer Jésus. Dieu est en train d'accomplir son dessein éternel. Et oui, là, je veux dire, ça n'enlève pas la culpabilité là, de Judas, parce qu'on apprend, Jésus dit au verset 24, « Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Ok? Donc, ça n'enlève aucunement la culpabilité à Judas. Mais n'oublions jamais que notre Dieu souverain accomplit ainsi le moyen par lequel la rédemption de la croix allait s'accomplir. Et encore là, j'aimerais encore remarquer quelque chose dans le verset 16. « Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. » Ça nous donne une perspective différente de la passion de Christ. Car ces personnes, ok, bon, de connivence avec Judas, mais le leadership d'Israël, étaient malveillants. Ils cherchaient une occasion de se débarrasser de cet homme, de faire le mal. Mais en fait, c'est le dessein bienveillant de Dieu qui s'accomplissait. N'est-ce pas ironique que des hommes malveillants étaient en train d'accomplir le dessein bienveillant de Dieu? Hey, c'est bon à méditer ça comme vérité. Comme genre en ce moment, là. Je veux dire, j'en reviens pas de la malveillance qu'on voit. C'est comme le voile est enlevé. Je veux dire, on a la misère à le croire. Voyons donc. La façon qu'on voit les choses, tu sais, comme les... Bon, je dis pas, je donne tout mon saut d'approbation sur tout ce qui arrive à Ottawa, mais je pense qu'il y a des gens là-bas qui voulaient juste dire, « Hey, gars, on peut-tu arrêter ces mesures-là? » Puis là, c'est la grosse armée, puis les polices, puis les fusils, puis tout le kit, puis tu dis, « Coudonc! » C'est malveillant, là, c'est... Moi, je trouve ça choquant, là, tu sais, puis... Oui, comme on disait, aller à l'hôpital voir sa femme, y a-t-il quelque chose de plus normal que ça? Puis là, hein, voyons donc, c'est tellement compliqué, puis... C'est bon de se rappeler, hein, que Dieu, lui, arrête pas d'être bienveillant avec ça. Puis il est capable d'accomplir son dessein bienveillant avec même toute cette méchanceté des hommes. Quelle vérité! Lorsque on comprend, qu'on croit, qu'on internalise cette réalité spirituelle que Dieu, dans sa bienveillance, n'est pas limité par la... n'est même pas affecté par la méchanceté des hommes. En bout de ligne, c'est toujours son plan bienveillant qui va triompher. Quel réconfort, mes amis! C'est quelque chose auquel s'accrocher en ce moment. C'est une vérité stabilisante, une vérité salutaire. Surtout lorsqu'on est dans des moments où est-ce que on est criblé comme le froment, où est-ce que ça tire d'un bord, puis ça tire de l'autre, puis que... OK, accrochons-nous à ce qui est certain, à ce qu'on sait de notre Dieu, qu'il est souverain, qu'il change de mal en bien. Le reste... Il va s'en occuper. Vous arrivez juste au bon moment, il me reste une phrase à dire. Je vous invite simplement à prier devant Dieu, dans votre situation, ce que vous pouvez vivre, en réponse à ça. Sur ce Dieu qui, même malgré toute la méchanceté et la malveillance des hommes, est capable et va accomplir ses plans bienveillants. Amen. Ah, Seigneur, merci que tu nous révèles tellement des choses merveilleuses. Dans ta parole. Seigneur, on a juste regardé 16 versets du tout début du récit de ta passion selon Matthieu. Mais Seigneur, c'est tellement riche en vérité. C'est tellement riche de se mettre dans l'atmosphère de ce qu'il pouvait vivre. Et Seigneur, merci que ta parole, elle est vivante. C'est riche pour nous en ce moment, en 2022, avec ce que nous vivons. Merci que c'est toi, Seigneur, qui a inspiré ces choses et c'est toi qui nous les amène dans nos vies, dans nos cœurs en ce moment. On te remercie, Seigneur. Oh, on veut se réconforter par ces choses. Qu'on ne promène pas les regards à gauche, à droite, avec inquiétude, mais que vraiment on regarde au rocher d'où on a été taillé. Tu ne changes pas, tu es le même. Et tout don, toute grâce excellente descend de toi, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni même ombre de variation. Merci pour ça, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.